Guerre et paix. Première partie. Chapitre 1. Scène 12. De toute cette jeunesse, il ne restait plus que Nicolas et Sonia, la demoiselle étrangère et la fille aînée de la comtesse, de 4 ans plus âgée que Natacha et qui comptait déjà au nombre des grandes personnes. Sonia était une petite brune mignonne, avec des yeux doux, ombragés de longs cils. Le ton olivâtre de son visage s'accusait encore plus sur la nuque et sur ses mains fines et gracieuses, et une épaisse natte de cheveux noirs s'enroulait 2 fois autour de sa tête. L'harmonie de ses mouvements, la mollesse et la souplesse de ses membres grêles, ses manières un peu réservées, la faisait comparer à un joli petit minet prêt à se métamorphoser en une délicieuse jeune chatte. Elle essayait, par un sourire, de prendre part à la conversation générale. Mais ses yeux, sous leurs cils longs et soyeux, se portaient involontairement sur le cousin qui allait partir pour l'armée. Et elle exprimait si visiblement ce sentiment d'adoration particulier aux jeunes filles que son sourire ne pouvait tromper personne. Il était évident que le petit Minet ne s'était pelotonné que pour un instant, et qu'une fois hors du salon, à l'exemple de Boris et de Natacha, il sauterait et gambaderait de plus belle avec ce cher petit cousin.
« Oui, ma chère, »
disait le vieux comte en montrant Nicolas.
« Son ami Boris a été nommé officier et il veut le suivre par amitié pour lui. Me quitter, laisser là l'université et se faire militaire. » Et dire, ma chère, que sa place aux archives était toute prête, c'est ce que j'appelle de l'amitié.
Mais la guerre est déclarée, dit-on.
On le dit depuis longtemps, on le redira encore, et puis on n'en parlera plus. Oui, ma chère, voilà de l'amitié où je ne m'y connais pas. Il entre au hussard.
Madame Karaguine, ne sachant que répondre, hocha la tête.
Ce n'est pas du tout par amitié,
s'écria Nicolas, qui devint pourpre et eut l'air de s'en défendre comme d'une action honteuse. Il jeta un coup d'œil sur sa cousine et sur Mademoiselle Karaguine, qui semblaient toutes deux l'approuver.
« Nous avons aujourd'hui à dîner le colonel du régiment de Pavlograd. Il est ici en congé et il l'emmènera. Que faire ?»
dit le comte en haussant les épaules et en s'efforçant de parler gaiement d'un sujet qui lui avait causé beaucoup de chagrin.
« Je vous ai déjà déclaré, papa, que si vous me défendiez de partir, je resterai. Mais je ne puis être que militaire, je le sais très bien, car pour devenir diplomate ou fonctionnaire civil, il faut savoir cacher ses sentiments, et je ne le sais pas. »
continua-t-il en regardant ces demoiselles avec toute la coquetterie de son âge. La petite chatte, les yeux attachés sur les siens, semblait guetter la minute favorable pour recommencer ses agaceries et donner un libre cours à sa nature féline.
« c'est bon, »
dit le comte.
« Ils s'enflamment tout de suite. Bonaparte leur a tourné la cervelle à tous, et tous cherchent à savoir comment de simple lieutenant il est devenu empereur. Après tout, je leur souhaite bonne chance. »
ajouta-t-il, sans remarquer le sourire moqueur de Madame Karaguine. On se mit à parler de Napoléon, et Julie, c'était le nom de Mademoiselle Karaguine, s'adressant au jeune Rostov. « Je regrette, lui dit-elle, que vous n'ayez pas été jeudi chez les Argarov. Je me suis ennuyée sans vous, » murmura-t-elle tendrement. Le jeune homme, très flatté, se rapprocha d'elle, et il s'ensuivit un aparté plein de coquetterie qui lui faisait oublier la jalousie de Sonia. Tandis que la pauvre petite, toute rouge et toute frémissante, s'efforçait de sourire. Au milieu de l'entretien, il se tourna vers elle et Sonia, lui répondant par un regard à la fois passionné et irrité, quitta la chambre, ayant beaucoup de peine à retenir ses larmes. Toute la vivacité de Nicolas disparut comme par enchantement et, profitant du premier moment favorable, il s'éloigna à sa recherche, la figure bouleversée. Les secrets de cette jeunesse sont cousus de fil blanc, dit la princesse Droubetskoy en le suivant des yeux. « Cousinage, dangereux voisinage. » « Oui, » reprit la comtesse, après l'éclipse de ce rayon de soleil et de vie apporté par toute cette jeunesse. Et, répondant elle-même à une question que personne ne lui avait adressée mais qui la préoccupait constamment, « Que de soucis et de souffrances avant de pouvoir en jouir. Et maintenant, je tremble plus que je ne me réjouis. J'ai peur, toujours peur. C'est justement l'âge le plus dangereux pour les filles comme pour les garçons. Tout dépend de l'éducation. Vous avez parfaitement raison. J'ai été, Dieu merci, l'ami de mes enfants et ils me donnent jusqu'à présent toute leur confiance, » reprit la comtesse. Elle nourrissait à cet égard les illusions de beaucoup de parents qui s'imaginent connaître les secrets de leurs enfants. « Je sais que mes filles n'auront rien de caché pour moi. Et que si Nicolas fait des folies, un garçon y est toujours plus ou moins obligé. Il ne se conduira pas comme ces messieurs de Pétersbourg. »
« Ce sont de bons enfants, »
dit le comte, dont le grand moyen pour trancher les questions compliquées était de trouver tout parfait.
« Que faire ? Il a voulu être hussard. Que voulez-vous, ma chère ?»«
Quelle charmante petite créature que votre cadette ! Un véritable vif argent. »
Oui, elle me ressemble,
reprit naïvement le père.
Et quelle voix ! Bien qu'elle soit ma fille, je suis forcé d'être juste. Ce sera une véritable cantatrice, une seconde Salomonie. Nous avons pris un Italien pour lui donner des leçons.
N'est-ce pas trop tôt ? À son âge, cela peut lui gâter la voix.
Mais pourquoi serait-ce trop tôt? Nos mères se mariaient bien à 12 ou 13 ans.
Savez-vous qu'elle a déjà été amoureuse de Boris? Qu'en pensez-vous? Dit la comtesse en souriant et en échangeant un regard avec son amie la princesse Anna Mikhailovna. Et, comme si elle répondait ensuite à ses propres pensées, elle ajouta: si je la tenais sévèrement, je lui défendais de le voir. Dieu sait ce qu'il en adviendrait. Elle voulait dire sans doute par là qu'ils s'embrasseraient en cachette. Tandis que maintenant, je sais tout ce qu'ils se disent. Elle vient elle-même me le conter tous les soirs. Je la gâte, c'est possible, mais cela vaut mieux, croyez-moi. Quant à ma fille aînée, elle a été élevée très sévèrement. Ah, ça c'est bien vrai, j'ai été élevée tout autrement, dit la jeune comtesse Vera en souriant. Mais, par malheur, son sourire ne l'embellissait pas, car, au contraire de ce qui a lieu d'habitude, il donnait à sa figure une expression désagréable et affectée. Cependant, elle était plutôt belle, assez intelligente, instruite. Elle avait la voix agréable, et ce qu'elle venait de dire était parfaitement juste. Pourtant, chose étrange, tous se regardèrent étonnés et embarrassés.
On tâche toujours de mieux réussir avec les aînés et d'en faire quelque chose d'extraordinaire,
dit Madame Karaguine.
« Il faut avouer, »
reprit le comte,
« que la comtesse a voulu atteindre l'impossible avec Vera. Mais après tout, elle a réussi, et parfaitement réussi. »
ajouta-t-il en lançant à sa fille un coup d'œil approbateur. Madame Karaguine se décida enfin à faire ses adieux en promettant de revenir dîner.
« Quelle sotte ! »
s'écria la comtesse après l'avoir reconduite.
« Je croyais qu'elle ne s'en irait jamais. »